Somnifère, le podcast.
Somnifère, c'est un podcast en deux parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somniferelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit.
Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer.
Y a-t-il plus douloureux en amour que de laisser la personne que l'on aime partir avec un autre ? Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 12 octobre. Et ce soir, Somnifère vous raconte l'histoire de Lucien et Marie-Louise, une nouvelle de Joseph Ferdinand Morissette. Mais avant cela, place à un exercice de visualisation idéal pour relâcher les tensions de ce début de semaine. Je vous remercie, si vous aimez ce podcast et souhaitez le soutenir, de prendre quelques secondes pour vous y abonner, ou alors de le noter si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Je vous souhaite une excellente nuit. Et maintenant, place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Et préparez-vous à dormir. Nous allons commencer par prendre quelques respirations profondes. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. À nouveau, prenez une grande inspiration par le nez, gonflez vos poumons et expirez lentement par la bouche. Une dernière fois, prenez une grande inspiration par le nez, gonflez votre ventre et expirez lentement par la bouche. Prenez un moment pour tourner votre attention sur votre corps, de la tête aux pieds, en vous assurant que chacun de vos muscles est détendu. Notez comme le mouvement de votre poitrine qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire, est apaisant et réconfortant. Nous allons maintenant commencer notre exercice de visualisation. Il n'est pas évident, en ce moment avec le contexte sanitaire, de s'offrir des vacances, de voyager, d'aller en week-end. Alors imaginez un endroit paisible, un endroit où vous aimeriez être en ce moment pour vous échapper du quotidien. C'est peut-être une île à l'autre bout du monde, une cabane tranquille dans les montagnes, une maison perdue au milieu d'une forêt paisible, un chalet bien chauffé où vous pouvez observer la neige tomber, une plage de sable fin ou un petit bateau à la dérive sur un lac parfaitement calme. Prenez quelques instants pour imaginer l'endroit idéal avec le plus de détails possible. Imaginez à présent que vous commencez à flotter dans cet endroit que vous avez choisi. Vous flottez simplement, débarrassé de tout votre poids, de toutes vos tensions, comme une plume, de gauche à droite, puis de droite à gauche, comme en apesanteur. Vous êtes suspendu dans les airs, et près de vous se trouvent des oreillers et une immense couverture d'une douceur exceptionnelle, en suspension également. Vous vous enfoncez dans cette douceur de plus en plus profondément. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Vous êtes si léger, si calme, détendu, prêt à vous plonger dans le sommeil le plus réparateur et le plus agréable qui soit. À présent, observez simplement les sensations de votre corps. Ne faites rien de particulier. Respirez simplement sereinement et sentez l'air qui entre et sort de vos narines et vous plonge dans une détente de plus en plus importante à mesure que vous expirez. Ressentez comme vous semblez vivre un réel naufrage aérien. Vous vous sentez de plus en plus léger et lourd à la fois. Votre corps sombre lentement dans la relaxation et le sommeil. Vous êtes serein, paisible, détendu, relâché, calme, rêveur et en paix.
L'histoire du soir.
Lucien Lanouette était un joli garçon de 24 à 25 ans. Je dis joli, mais le mot est peut-être exagéré. Il avait les yeux d'un beau noir, les cheveux de la même couleur et bouclés, une figure souriante qui plaisait dès le premier abord. Il était grand, mais pas bien gros. En un mot, à première vue, il pouvait passer pour un joli garçon. Un critique sévère aurait bien trouvé à redire sur sa bouche un peu trop grande, sur ses oreilles un peu trop rabattues, comme me disait une jeune fille qui le trouvait détestable parce qu'il n'avait pas voulu d'elle pour femme, mais dans la paroisse de Sainte-Anne de la Peyrade, où demeurait Lucien, les critiques étaient rares dans le temps, et on trouvait mon héros bien joli. En effet, c'était bien le plus beau garçon de la paroisse. Son patron l'aimait, et il avait bien raison. C'était le type du bon commis, poli, courtois, affable. Les pratiques de M. Pierre Marcotte, c'était le nom du marchand, en raffolaient. Et les jeunes filles, donc, elles venaient de 10 lieues à la ronde faire leurs petites emplettes chez M. Marcotte. Je n'oserais dire que quelques-unes d'entre elles ne faisaient pas un tout petit peu les yeux doux aux commis. Que voulez-vous ? Des jeunes gens comme Lucien, c'était chose rare à Sainte-Anne. Et n'était-il pas tout naturel que les jeunes filles eussent de toute préférence pour un jeune homme aussi parfait que lui ? Quoi qu'il en soit, Lucien ne paraissait pas disposé à entrer dans la matrimonie, puisqu'il ne répondait nullement aux avances des jolies jeunes filles. On en parlait dans la paroisse et personne ne pouvait expliquer l'antipathie qu'éprouvait Lucien pour les filles. Bien des mères auraient désiré l'avoir pour gendre. Lucien était un bon parti, pas riche, faut dire, mais il avait une bonne position. L'argent a-t-il jamais fait le bonheur ? On a trop de preuves du contraire pour le croire. Je disais plus haut que personne ne pouvait expliquer l'antipathie que semblait éprouver Lucien pour les filles. C'était une erreur. Il y avait quelqu'un dans la paroisse qui savait fort bien pourquoi Lucien ne s'amusait pas aux demoiselles de l'endroit. Et ce quelqu'un, c'était Marie-Louise, la fille de Marcotte, le marchand. Disons de suite que jamais Lucien ne lui avait parlé d'amour, mais avec cette intuition qu'a généralement la femme, elle avait senti qu'elle était aimée. En fut-elle fâchée ? Son ange gardien qu'elle priait chaque soir aurait pu le dire. Mais à la voir à genoux dans sa chambrette, les mains jointes, la figure rayonnante de bonheur, on pouvait supposer qu'elle ne demandait pas à Dieu d'éloigner de Lucien l'amour qu'il avait pour elle. Il y avait bien 4 ans qu'ils s'aimaient au moment où commence notre récit. Lucien continuait à vivre auprès de celle à laquelle il avait donné tout son amour, et comme je le disais plus haut, il n'avait jamais osé ouvrir son cœur à la fille de son patron. Pourquoi agissait-il ainsi ? C'est que Lucien avait sa fierté à lui, fierté bien pardonnable, mais qui n'avait pas sa raison d'être. Lucien était pauvre, et se figurait que c'était un crime, dans la position où il se trouvait, d'oser lever les yeux sur la fille de son patron. Vous ai-je dit que Marie-Louise était belle ? Non, eh bien, je m'empresse de réparer mon oubli. Marie-Louise était une jolie blondette de 20 ans, taille élancée, yeux bleus, teint d'une blancheur de neige. Lucien et Marie-Louise faisaient le plus beau couple que l'on pût rencontrer dans tout le comté de Champlain. Il fallait les voir le dimanche, l'un à côté de l'autre, se rendre à l'église, entendre la messe dans le même banc, entre Monsieur et Madame Marcotte, puis revenir à la maison. On se rangeait sur leur passage et on les admirait. Il n'y avait rien qui séparait ces deux jeunes cœurs. Beautés égales, caractères joyeux, tous deux étaient faits pour vivre ensemble. Mais il y avait toujours cette question d'argent. Marie-Louise était riche. Lucien était pauvre. Fille unique d'un riche marchand, Marie-Louise, avec sa beauté et ses talents, pouvait espérer le meilleur parti possible. Lucien n'avait pour tout partage que sa position. Ils étaient donc séparés, ces deux cœurs créés pour s'aimer. Depuis un mois environ, Lucien était triste. Il avait cru s'apercevoir que la jeune fille l'aimait. Il craignait que son patron n'a pris l'amour de sa fille et ne le renvoyât de son service. Il voulait bien fermer son cœur à tout espoir, mais il ne pouvait se faire à l'idée de quitter cette maison où il avait été si heureux pendant 5 ans. Il sentait la douleur que lui causerait l'éloignement de celle qu'il aimait. Le père Marcotte était un homme bon. Il aimait Lucien comme son propre enfant. Il n'était pas rare de l'entendre dire en parlant de sa fille et de son employé « mes deux enfants ». Pierre Marcotte s'aperçut bientôt du changement opéré chez Lucien. Il lui demanda s'il était malade ou s'il avait quelque chose qui le chagrinait. Celui-ci répondit qu'il n'avait rien du tout, qu'il était aussi bien qu'il pouvait le désirer. Mais en disant cela, deux larmes perlaient sur le bord de ses paupières. Marcotte s'en aperçut et résolut d'éclaircir le mystère. Instinctivement, il se rendit à la chambre de sa fille. Il était tellement habitué à voir Marie-Louise et Lucien ensemble qu'il se figurait que la première devait connaître tous les secrets du dernier. En arrivant auprès de la chambre de sa fille, il crut entendre quelqu'un qui pleurait. Il s'arrêta, étonné. « Allons, dit-il, Marie-Louise se sera aperçue de sa tristesse, et comme elle l'aime comme son frère, elle aura été chagrinée. » Il ouvrit la porte sans parler, et en voyant son père, la jeune fille se leva précipitamment et se cacha la figure dans ses mains. « Voyons, ma pauvre Marie-Louise, qu'as-tu donc qui te fasse pleurer ? Quelqu'un t'a-t-il fait de la peine ? Es-tu malade ? Voyons, parle !» La jeune fille resta muette. « Je crois, poursuit son père, que tu as eu une chicane avec Lucien. Il est triste depuis quelques jours, et quand je lui ai demandé s'il était malade ou s'il avait quelque chose qui le chagrinait, il m'a répondu qu'il n'avait rien. Mais en même temps, des larmes coulaient lentement de ses yeux. « Quoi, père, Lucien a pleuré ?» s'écria la jeune fille. « Si tu savais, commença-t-elle. » Mais comme si la crainte eût arrêté les paroles dans sa gorge, elle ne put continuer. « Eh bien, si je savais quoi ?»« Oh, mon père, il m'en coûte trop. Jamais je n'aurai le courage de te dire. »« Allons, enfant, tu n'aimes donc plus ton père que tu crains de lui conter un petit secret ?» Tiens, viens, assieds-toi sur mes genoux, comme quand tu étais toute petite. » La jeune fille se jeta sur les genoux de son père, qui l'enlaça dans ses bras en l'embrassant. Puis bien bas, elle lui ouvrit son cœur. Elle lui conta combien elle aimait Lucien. Depuis quel temps elle avait découvert cet amour. Elle prouva à son père que Lucien l'aimait, en lui faisant remarquer certains faits et gestes de ce dernier. Pierre Marcotte souriait en écoutant sa fille. « Ne dis rien, lui répond-il, lorsqu'elle eut terminé sa confession. Je vais arranger l'affaire. Mais attention à ta langue, je veux qu'il ne sache rien à présent. » Lorsque Lucien vint prendre son souper, il apprit de la servante que Marie-Louise devait épouser son cousin, Henri Frenette, un mois plus tard. On juge de la surprise et du désespoir du pauvre Lucien. Le souper fut court. Rendu au magasin, il faisait les choses tout de travers. On lui demandait du thé, il montrait de la flanelle. Voulait-on de la farine, il allait chercher du coton jaune. Pierre Marcotte regardait et souriait sans rien dire, sans même paraître s'apercevoir de ce que son employé faisait. Aussitôt le magasin fermé, Lucien courut s'enfermer dans sa chambre et la figure dans ses deux mains, il éclata en sanglots. Ce qu'il redoutait allait arriver. La jeune fille qu'il aimait plus que sa vie allait bientôt quitter la maison paternelle pour aller vivre avec un autre. Mais je me suis donc trompé, pensait-il en lui-même, à la voir empressée autour de moi, me sourire lorsque je la rencontrais, et à mille autres petits détails, j'avais cru qu'elle m'aimait. Mais non, je ne suis toujours que le valet de son père, un pauvre gueux destiné à être malheureux toute sa vie. Dans un mois, le mariage, ce que je vais souffrir pendant ce mois, Dieu seul peut le dire. Si je partais, partir, mais quel prétexte donnerais-je à mon départ? Ne suis-je pas bien ici, et d'ailleurs, j'aurai au moins ce mois pour la voir, la contempler. La voir, est-ce que j'aurai le courage de lever la vue sur elle? Serais-je assez fort pour lui adresser la parole sans dévoiler le désespoir qui me ronge? Ainsi pensait Lucien. Il passa la nuit à méditer sur ce qu'il avait à faire. Il s'endormit le matin sans avoir pu tracer sa ligne de conduite pour le mois fatal. Une chose qui surprendra plusieurs de mes lecteurs, c'est que Lucien n'avait pas un mot de blâme, soit pour Marie-Louise, soit pour le cousin Henri. Il faut dire que le futur gendre de M. Pierre Marcotte était un ami intime de Lucien. Il ne se passait pas une journée sans qu'Henri vînt faire une visite chez son oncle. Henri Frenette était riche, ou du moins il était ce qu'on qualifie généralement de « à l'aise ». Son père était un riche cultivateur du bas de Sainte-Anne. Après un brillant cours d'études, le jeune Frenette était entré à l'université pour y étudier la médecine. Il y avait 6 mois qu'il y avait été reçu lorsqu'il fut question de son mariage avec Marie-Louise Marcotte. Lucien trouvait ce mariage tout à fait raisonnable. Le temps passait vite. La date fixée pour le mariage arrivait, encore 2 ou 3 jours, et Marie-Louise Marcotte allait devenir Madame Henri Frenette. On devait signer le contrat de mariage le soir même. Qu'avait fait Lucien pendant ce temps? Comme bien on le devine, le malheureux jeune homme avait souffert le martyre. Il n'avait vu Marie-Louise que 3 fois durant ce mois, et chaque fois, la jeune fille lui avait parlé de son mariage, en laissant voir toute la joie qu'elle ressentait de cet heureux événement. La dernière fois qu'elle lui avait parlé, elle l'avait averti qu'il devait se préparer à être garçon d'honneur. Lucien, en entendant Marie-Louise formuler cette demande, devint horriblement pâle. La jeune fille s'en aperçut et regretta sa malice. Le jeune homme se remit bientôt et répondit qu'il était impossible d'acquiescer à sa demande. Marie-Louise ne lui en parla plus. Quelque temps après, Pierre Marcotte avertit son employé qu'il devait signer le contrat, comme un ami de Marie-Louise, avait-il ajouté en souriant. Le notaire est arrivé, Pierre Marcotte, son épouse, sa fille, Henri Frenette et plusieurs autres personnes se trouvent dans le salon. L'acte est rédigé, il ne reste plus qu'à en faire la lecture et à le signer. Lucien n'est pas encore rentré. 2 fois déjà, le père de Marie-Louise était allé l'avertir que le moment de signer était arrivé et qu'il devait se rendre au salon. Mais le jeune homme trouvait des excuses et ne venait pas. Pierre Marcotte dit à sa fille d'aller le chercher. Marie-Louise partit de suite et revint 2 minutes après avec Lucien. Il n'y avait que 2 sièges de vacants. Ces 2 sièges se trouvaient l'un à côté de l'autre. Marie-Louise en prit un et Lucien dut nécessairement s'asseoir sur l'autre. La lecture du contrat commença, mais lorsque le notaire lut le nom du futur, au lieu de Henri Frenette, que Lucien s'attendait à avoir nommé, ce fut son nom qu'il entendit. Il se leva comme s'il eût poussé par un ressort et se mit à regarder le notaire, puis Marie-Louise, puis enfin Pierre Marcotte, comme s'il eût demandé une explication de ce qu'il venait d'entendre. Tout le monde se mit à rire, et Lucien eut bientôt le mot de l'énigme. Pierre Marcotte, désirant faire une surprise à son employé, lui avait fait croire que sa fille allait épouser Henri. Le jeune Frenette, qui aimait Lucien, avait consenti à faire le prétendant. Son rôle était fini. On se figure facilement la joie de Lucien. Le mariage eut lieu 3 jours après.
Bonne nuit. Bonne nuit.